Vendredi 22 décembre, il est 16h05. Nous avons actuellement environ 2 degrés Celsius sur Victoria. Ce sera moins 1 degré en soirée. Embarquement immédiat dans le débrief, votre rendez-vous info à l'antenne de CILS-FM. C'est Alexis Gagnon en votre compagnie pour la prochaine heure. Merci de votre fidélité à la fréquence 107.9 FM. Suite et fin aujourd'hui de la série d'émissions en mode revue de l'année. On termine en beauté avec Pauline Gobeil, directrice générale de la Société francophone de Victoria. Pauline fera pour nous le bilan d'une année 2017 bien remplie à la SFV. On enchaînera immédiatement avec notre fidèle chroniqueuse Affaires publiques, Marie-Hélène Bourret, à propos d'un dossier qui a défrayé les manchettes des journaux en Colombie-Britannique, et ce depuis quelques années. 2017, une année électorale, vous le savez, n'a pas fait exception. Je veux parler, bien sûr, du pipeline Trans Mountain de la pétrolière Kinder Morgan. Ce sera dans la seconde partie de l'émission. Donc, beaucoup de matière à réflexion, en perspective. Bonne émission à toutes et à tous. À tout de suite. Chers auditeurs, rebonjour, vous êtes toujours dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS-FM 107,9. Le Débrief est en mode rétrospectif. Le Débrief a les yeux dans le rétroviseur. On regarde l'année 2017, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. On parle des événements qui ont jalonné le calendrier 2017. J'ai le plaisir de retrouver au bout du fil aujourd'hui Pauline Gobeil, directrice générale de la Société francophone de Victoria, anciennement présidente de la Société francophone de Victoria. Elle est passée d'un rôle à l'autre cet été. Bonjour Pauline.
Bonjour Alexis.
Alors depuis combien de temps êtes-vous directrice générale? Ça fait quelques mois maintenant.
Depuis le 2 août cette année.
Alors, comment ça s'est passé? Pourquoi avoir fait ce choix?
C'est les circonstances qui ont fait que c'était le bon temps. Vous savez, quand les morceaux d'un casse-tête sont au bon endroit, tout tombe à pile, à point. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais à prendre ma retraite avec ma carrière précédente en laboratoire.
Oui, dans le domaine de la santé.
Oui, puis notre directeur général, M. Mongeau, a annoncé qu'il voulait retourner dans le secteur privé. Puis, mon mari m'a dit, pourquoi ça t'intéresserait pas, tu aimes ce travail-là. Alors, les choses ont déboulé à partir de ça. J'ai dit au conseil d'administration que je pensais d'appliquer. Alors, je me suis retirée de toutes les conversations. Puis, le 2 août, j'ai commencé à travailler, puis j'adore.
Alors, quels sont les enjeux qui ont occupé, j'ai envie de dire peut-être préoccupé, la directrice générale depuis le 2 août?
Ben, c'est depuis le 2 août, il y a beaucoup de choses. Mais l'année 2017 a été vraiment, vraiment chargée. Il y a eu vraiment des gros, gros changements.
C'est vrai, il y a eu un déménagement au printemps 2017.
Oui, on a déménagé. Puis ça, c'est après 19 ans sur la rue Yates. Je peux vous dire que tout le monde sait qu'après 19 ans dans un même appartement ou dans une même maison, les petits coins sont tous pleins de boîtes.
Hein? Oui.
Alors, il a fallu revoir et faire du nettoyage, puis faire du recyclage, puis décider qu'est-ce qui était important, puis alors l'accumulation de choses, hein, passer à travers tout ça, ça fait que ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Puis on ne serait jamais parvenu s'il n'y avait pas eu de bénévoles, surtout comme M. Richard Bouchard qui a travaillé beaucoup, c'était lui qui était le chef de mission.
De cette grande corvée. Il est d'ailleurs le secrétaire au conseil d'administration de la Société francophone de Victoria.
Oui, exactement. Exactement. Puis, une fois qu'on a déménagé, il a fallu aménager les locaux, nos beaux locaux sur la rue Langley. Parce que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand on a décidé qu'on ne pouvait plus rester sur la rue Yates, on a commencé à regarder les endroits qu'il y avait pour la location. Hein?
Oui.
Puis, quand on a vu les endroits sur la rue Langley, là, tout d'un coup, on s'est dit, ah, ça, c'est parfait parce que, je sais pas, ça doit faire 30 ans que la communauté francophone veut avoir une maison de la francophonie. Puis, c'est pas arrivé pour toutes sortes de raisons, là. Mais c'est encore dans les livres. Fait que quand on a vu l'endroit, on a dit, ah, ça, c'est une bonne place pour expérimenter avec le thème de la Maison de la Francophonie. Parce qu'on a une belle salle communautaire. Alors, ça donne un endroit où la communauté peut se réunir, peut faire des choses, avoir toutes sortes de rencontres, d'ateliers. Puis, on a dit, on va voir comment ça fonctionne, puis on va s'adapter. Puis, à partir de là, bien, ça va nous donner une base sur laquelle s'appuyer si on continue la recherche pour la maison.
Ben, moi, j'ai l'impression que les locaux de la rue Langley sont très habités, très incarnés, avec beaucoup de chaleur. La radio CILS a eu la chance de les occuper brièvement avant de trouver cet emplacement ici dans l'école Victor Brodeur, qui est un lieu idéal pour la radio. Mais tout de même, sur Langley, on a eu vraiment beaucoup de plaisir et on a vu justement les locaux prendre vie. Il y a vraiment une belle chimie là qui s'est mise en place sur Langley, n'est-ce pas?
Ben oui, puis c'est ça je pense que ça répond bien aux besoins de la communauté. Quand la radio est partie, parce que c'est vrai, comme tu dis, que c'est l'endroit idéal à l'école pour la radio, on s'ennuie encore de vous autres, d'ailleurs.
Oui, c'est mutuel, c'est réciproque.
Mais c'est ça, je pense que ça répond bien aux besoins de la communauté, parce que c'est là. Fait que les gens, c'est facile de les gens arrivent puis ils disent, ça serait plaisant de faire une soirée de chant, par exemple.
Oui.
Ah oui, la salle est là. Alors, vous venez, vous nous dites qu'est-ce que vous avez besoin, puis vous le faites. Ça fait que déjà, tu sais, il y a des personnes dans la communauté qui ont pris des initiatives, puis justement, ils l'utilisent à bon escient. Ils l'utilisent comme ça devrait être. Puis les gens viennent.
J'ai entendu parler d'improvisation, de soirée d'impro aussi.
Oui, mais ça, c'est encore là, c'est qu'on fait des essais, on analyse, après ça, on change, on fait des changements. Puis l'impro, ça, pour une raison qu'on ne sait pas trop, n'a pas marché.
Ah.
Fait qu'il a fallu, on l'a laissé tomber, on a eu, je pense, 6 semaines, puis après ça, on était rendu très peu de gens. Ça fait qu'on a dit, bon, OK, c'est pas le format qui fait, c'est pas le format qui fonctionne. Alors, on va revoir, on va peut-être faire un atelier comme un samedi au début de la nouvelle année, un samedi de formation, puis commencer comme ça. Ou on va voir. C'est en posant des questions, puis en essayant des choses qu'on finit par trouver les bonnes. Qu'est-ce qui fait que les gens vont accrocher?
T'sais? En tout cas, la pendaison de crémaillère, si on remonte un petit peu dans le temps, elle a été un grand succès.
Oui.
C'est là qu'on a vu justement tout le potentiel de cet endroit-là, très chaleureux, très accueillant, bien dessiné pour accueillir quand même de grands groupes. En tout cas, les 5 à 7 fonctionnent très bien. Il y en a eu un récemment, j'en ai entendu parler en bien. Malheureusement, je ne pouvais pas y être, mais c'était réussi, m'a indiqué Normand Hébert, qui était ici à la radio ce matin.
Oui. Non, c'était vraiment bien. Les 5 à 7, on fait des beaux jeudis à tous les mois. Hein? On a une programmation qui est mensuelle. Puis les beaux jeudis se font normalement au Yates Tap House, sur la rue Yates, au coin de Blanchard.
Oui.
Mais pour les occasions spéciales, comme celui-là de Noël, on a dit, OK, on va le faire à la société. Puis on avait comme 65 places. Les billets se sont tous vendus, ce qui est une première. Puis c'était vraiment, c'était, comme on dit chez nous, au bout.
Génial.
C'était bien, les gens ont été satisfaits. Pour nous autres, au bureau, c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'a pas besoin de commencer à transporter les choses, aller installer un endroit qui est pas, qu'il faut organiser les tables, les chaises, toutes ces choses-là. Fait que, sinon, ça a été facile puis ça a été vraiment, vraiment plaisant.
Donc, vous allez le refaire, c'est ce que j'entends.
On le refera pas à tous les mois ici parce que c'est beaucoup trop de travail. Mais les mois spéciaux, comme on est en train d'organiser pour le mois de mars, parce que c'est le mois de la francophonie, donc le premier jeudi du mois de mars, les beaux jeudis vont se faire à la société.
Magnifique.
Ce genre de choses-là. Ça fait que...
Tandis qu'on parle de la salle qui est très accueillante et qui peut accueillir la communauté, on peut peut-être évoquer, en guise d'aide-mémoire, les services que prodigue la SFV, parce que votre porte est ouverte. On peut se rendre chez vous pour vous consulter, vous poser des questions. Il y a aussi du matériel informatique. Est-ce qu'on peut résumer ça en quelques mots?
Oui. À la CSF, on a un service d'aide à l'emploi.
Oui.
Puis, avec l'aide à l'emploi, c'est si vous avez besoin d'aide pour faire la traduction de votre curriculum vitae ou si vous avez besoin d'aide pour rédiger votre lettre de présentation, si vous avez besoin d'aide, par exemple, pour faire des entrevues, on va vous pratiquer. Ensuite, on va vous donner des noms, une liste d'employeurs qui cherchent des employés. Il y a toutes sortes de formations aussi qui sont possibles. Par exemple, si vous êtes intéressé à suivre un cours quelconque, si vous rentrez dans les critères des programmes du gouvernement, alors ils vont payer une grande partie de ces cours-là, puis on va vous intéresser, on va vous aider à faire toute la démarche à travers ça. À part ça, on a un laboratoire d'informatique avec 4 ordinateurs. Oui. Vous pouvez faire des photocopies, toutes sortes de choses. Après ça, on a une bibliothèque. Vous pouvez venir vous asseoir dans notre belle salle communautaire, écouter de la musique, lire, regarder des magazines.
Oui, on a des abonnements à des magazines très pertinents, là, l'actualité notamment.
Exactement.
On a le journal Le Devoir, si ma mémoire est bonne.
Oui, on a les journaux. Ensuite, en janvier, on commence de l'aide au devoir.
Oh!
Puis de l'aide au devoir 2 jours par semaine.
Oh.
Je pense que c'est de 4h à 6h le soir, ici dans nos locaux. Les parents peuvent s'asseoir, prendre un café en attendant ou aller magasiner, peu importe. Puis, c'est de l'aide au devoir pour les étudiants, pour les élèves, en immersion ou à l'école francophone. Puis, c'est de 6 à 8, je crois.
Super. Et pour s'inscrire, on fait comment?
Si les gens veulent avoir plus d'informations, ils ont juste à nous appeler ou à regarder sur la page Facebook de la société, c'est tout est là.
OK, donc francocentre.com, ça c'est le site web.
Oui.
Il y a aussi le Facebook de la Société francophone de Victoria. Donc tous les services qu'on vient d'évoquer, et ça n'est même pas la totalité, parce qu'il y en a quelques autres, il y en a certains autres. Tout ça sur Langley, donc au 1218 Langley, dans le cœur historique de Victoria. La porte est ouverte. C'est vraiment une belle équipe qui anime cette société francophone de Victoria.
La meilleure.
Oui, la meilleure, en effet. J'ai été témoin de vos succès et réussites. Pauline Gobeil, rappelons à nos auditeurs que nous sommes en conversation avec Pauline Gobeil, directrice générale de la Société francophone de Victoria. Pauline, vous avez évoqué un petit peu plus tôt la maison de la francophonie. C'est pour quand la maison définitive de la francophonie, le foyer réel et définitif, cette maison? Est-ce qu'on va apporter la première pierre à l'édifice?
Ça va dépendre si on gagne la loto en fin de semaine. Non, mais je veux dire, on est en train de travailler là-dessus. On a un comité de formés, mais c'est difficile parce qu'à Victoria, tout le monde sait comment c'est dispendieux, juste les terrains, de commencer à acheter un immeuble.
Oui.
C'est dans la même ligue. Hein.
Oui, c'est ça.
C'est plus difficile. Alors, on est en train de travailler sur un plan d'affaires avec une entreprise qui est reconnue, une fondation qui est reconnue pour nous donner de l'aide avec ça. Ça fait que à partir de là, on va arriver à des solutions, j'imagine. Je ne sais pas si ça va être un nouvel immeuble. Si jamais on a assez d'argent, ça va être possible. Mais il va certainement falloir faire un comité de promotion pour amasser des fonds.
Oui.
Fait que ça va être plus définitif dans la nouvelle année, là. Mais cette année, ça l'a pris un petit peu de recul, dans le sens que avec le déménagement, avec le remplacement de la direction générale, puis l'aménagement des nouveaux locaux, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été qui ont pris la priorité.
Naturellement. Et on peut dire aussi que Parce que le logement est difficile d'accès tant au niveau de la propriété que sur le plan locataire. Donc, difficile d'accéder à la propriété, difficile d'accéder au logement, mais c'est vrai aussi pour les organismes à but non lucratif,
ben,
comme la Société francophone.
Ça.
Il n'y a pas d'exception pour les OBNL. Il y a actuellement un poste vacant à la présidence, au conseil d'administration.
Oui.
Est-ce que 2018 permettra de combler ce poste?
La présidence, dans le moment, c'est Isabelle Leboul qui est vice-présidente, qui agit comme présidence par intérim.
D'accord.
Puis, probablement que, d'après qu'est-ce que je crois, le poste va rester ouvert jusqu'aux prochaines élections. Le poste de présidence, jusqu'aux prochaines élections.
Qui aurait lieu?
Qui vont être vers au début juin.
2018.
Oui, au début juin 2018, en effet.
D'accord. OK, on va conserver cet équilibre-là.
Mais je peux dire aux auditeurs que si jamais ils sont intéressés à siéger sur le conseil d'administration ou à aider, qu'ils appellent, puis on va en parler parce qu'il y a toujours besoin de monde. Hein.
Bon.
Je pense qu'il y a deux autres postes aussi qui sont ouverts sur le conseil d'administration.
Actuellement?
Oui.
D'accord. Alors, l'appel est lancé. Ça représente un investissement en temps de combien d'heures mensuellement, selon vous, Pauline?
Le conseil d'administration se rencontre une fois par mois, 10 fois. Ça veut dire 10. Puis les rencontres sont de 2 heures. À part ça, dépendamment si la personne est intéressée à un dossier en particulier, là, il va avoir quelques heures de plus. Mais disons que... Moi, je dirais, par mois, c'est peut-être une dizaine d'heures.
Oui.
Maximum, si tu t'impliques vraiment, là.
D'accord. Bon, mais à bon entendeur, salut. L'appel est lancé pour un engagement au CA de la Société francophone de Victoria. Pauline, comment se présente 2018? Est-ce que on est en mesure de faire un petit peu de projection, de prédire ce qui va se passer?
Ben en 2018, on va avoir encore notre programmation régulière, comme les beaux jeudis à tout le début du mois. On a le cinéma qui est mensuel aussi. Lui, c'est le dernier jeudi de chaque mois.
Ah, à quel endroit déjà?
Puis là, avant ça, on le faisait à l'école, mais maintenant, on a un beau système de projection, tout nouveau, à la société, dans la salle communautaire. Alors, on va essayer de le faire ici.
Oui.
Le premier, celui-là, le 25 de janvier, je crois, c'est De Père en flic 2.
Ah, ben oui. Un film qui a connu beaucoup de succès au Québec.
C'est ça. Ben oui. Puis, avec ça, ben, on va l'avoir ici, à la société. Puis là, comme on fait avec toutes les activités qu'on a, on va voir comment ça va, on va écouter les gens, puis après ça, on va adapter... pour avoir le meilleur service possible. Ça fait que ça va commencer, ça va être intéressant. Puis là, on est en train de penser aussi d'ajouter des matinées cinéma pour les plus jeunes,
oui.
Les familles. Ça fait qu'on va voir comment ça va se développer. Ensuite, on a pour les aînés, comme d'habitude, le bridge, moi j'appelle ça les sociales, là.
Oui.
Des rencontres sociales dans la nouvelle année, on veut faire des conférences, des petites conférences au début de ces journées-là, par exemple l'aromathérapie, des choses qui sont intéressantes.
Oui.
Puis des ateliers d'écriture, on a l'aide aux devoirs, on est en train de penser à offrir des cours d'anglais.
Oui.
Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de francophones, aînés, jeunes, nouveaux arrivants, qui nous demande d'avoir des cours d'anglais.
D'accord.
Alors, on est en train de regarder ça. Quoi d'autre pour la nouvelle année?
Un festival?
Ah, ben là, le festival, là, ça, là, c'est vraiment quelque chose.
Oui.
Cette année, le festival, il y a des gros, gros, gros changements. Ça fait qu'il va falloir que tout le monde garde les oreilles ouvertes pour quand on va être en mesure de l'annoncer. Avec tous ces changements-là.
Oui.
Parce que c'est, en tout cas, il y a une nouvelle date, un nouvel endroit, un nouveau format.
Wow.
Ça fait qu'on a décidé qu'on voulait raviver ça, puis on a sauté à l'eau.
Ben, c'est excitant.
Oui, oui. Puis je pense que ça va être vraiment bien.
C'était vraiment un temps fort dans l'année. Est-ce que ça demeure relativement printanier ou estival tout de même?
Oui, c'est notre plus gros événement. Ça fait que c'est le plus gros événement de l'année. Puis cette année, ça va être dans l'été. Je suis aussi bien de le dire, ça va être du 21 au 24 de juin.
Bon, on a la primeur. C'est merveilleux. Donc, ça coïncide avec la Saint-Jean-Baptiste.
Avec la Saint-Jean-Baptiste. Puis,
très bien.
Ça va être la fête de la francophonie. Puis, on va être capable de faire un gros bang.
Un gros rendez-vous.
Oui.
Francophone et francophile.
Oui, c'est ça.
J'espère qu'on aura l'occasion de donner tous les détails de la programmation à l'antenne dès qu'elle sera.
Vous serez les premiers.
C'est de la musique aux oreilles de CILS FM, ça.
Oui.
Magnifique. Est-ce qu'il y a autre chose au calendrier qu'il serait important de mentionner?
Au mois de février, on a les rendez-vous du cinéma québécois.
Oh!
Puis hier, on a eu le dévoilement de la programmation. Ça fait que ça va être présenté très, très bientôt. Il y a 5 super films.
Oui.
Avec des artistes puis qui vont venir pour en parler. Ensuite, on a les Juste pour rire, le festival Juste pour rire,
d'accord,
qui a été confirmé avec Anthony Cavanaugh.
D'accord.
Puis ça va être au Alex Goodall. Alex Goodall?
Oui.
Au théâtre Alex Goodall. Puis, on a aussi une soirée avec le consulat suisse, un pianiste qui vient. Puis ça va être à l'école Victor Brodeur. Ça, je pense que c'est le 8 mars ou le 7 mars. Là, c'est dans... Mais toutes ces dates-là sont dans le réverbère.
Oui, le réverbère.
Sur le site web de la société. Ça fait que...
Donc, deux sources d'informations. Une source papier, le réverbère, qu'on peut aussi lire en format numérique.
Oui.
Et par ailleurs, le fameux site web francocentre.com, ainsi que le Facebook, pour ceux qui passent beaucoup de temps sur Facebook et qui s'y rendent quotidiennement. Le Facebook, la société, est très vivant, très rafraîchi quotidiennement.
Mm-hmm.
Et le réverbère, oui, on peut peut-être dire quelques mots sur le réverbère. Moi, je suis un lecteur assidu du réverbère. J'ai mes chroniqueurs préférés. Disons que je me rends directement à la chronique de Jacques Vallée, lis d'une couverture à l'autre. C'est toujours super intéressant. Le réverbère qui paraît en format papier, on peut l'obtenir en se rendant sur l'anglais d'ailleurs.
Oui.
Dès qu'il paraît. Autrement, on peut le lire dans un format très convivial, un format tablette, flipbook. On peut tourner les pages. C'est comme si on avait le format papier entre les mains.
Oui. Puis pour le réverbère, si les gens sont intéressés, qui ont eu une expérience de voyage intéressante, des chroniques qui sont amusantes, ils peuvent toujours nous envoyer le texte, puis on va être heureux de les publier.
Voilà. Donc, c'est vraiment un journal, un périodique qui est le reflet de la communauté. Vous allez trouver des gens de tous les horizons,
mm-hmm,
et des messages d'intérêt public. C'est vraiment une des belles productions de la société francophone de Victoria. Pauline, c'est, je crois, tout le temps qu'on a. Je regarde l'horloge. Oui, on est vraiment dans le temps imparti. On va devoir se laisser là-dessus. Rappelons aux auditeurs que j'avais le bonheur de parler à Pauline Gobeil, directrice générale de la Société francophone de Victoria. Elle est directrice générale depuis le 2 août. Et comme elle le disait, sa porte est ouverte, donc contactez la société francocentre.com ou rendez-vous directement sur l'anglais pour faire connaissance. Pauline, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler en 2018. Le débrief aura peut-être, mm-hmm, une formule différente, mais vous ferez partie certainement des invités, des habitués de cette formule-là. Donc, à très bientôt et bonne année.
Je vous dis la même chose, puis ensuite je veux souhaiter un joyeux Noël puis une nouvelle année 2018, pleine de joie puis d'amour à tout le monde.
Merveilleux. Alors, les vœux sont transmis à tous les auditeurs. Encore merci, Pauline, et à très bientôt.
Au revoir.
On marque une courte pause avec l'artiste Peter qui interprète Noir Eden. On retrouve Marie-Hélène Bourret de l'autre côté pour parler des dernières actualités entourant le projet d'expansion de l'oléoduc Trans Mountain. À tout de suite.
Assis devant rien, je réfléchis, j'invoque l'esprit, celui qui depuis lors me possède. Désormais fantôme, il ne m'écoute plus, je le comprends, je m'écoute trop et ça ne mène jamais ailleurs. Trois heures à M, seul avec moi, dans un diner, ouvert 24 heures, où les gens prennent pour emporter. La soupe est chaude, les toilettes propres, la dame est gentille, et quand elle parle, défile les sous-titres comme au cinéma. C'est un film noir, oui, je pensais, j'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des myriades de questions, une de plus à chaque seconde. C'est un film noir, oui, j'en suis sûr, j'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des myriades de questions, une de plus à chaque seconde. C'est un film noir, c'est un film noir. C'était toi, c'était personne. Une meute de loups entre des vortoux. Je crois qu'ils sont ivres, ils ont l'air heureux. Ça me le rend un peu, je les espionne. J'ai le souvenir d'avoir fait bien pire il y a quelques années. Je m'en suis sorti, où n'en serais-je jamais rentré? Dans le bloc-notes de mon téléphone, soudain quelqu'un entre. J'ai cru c'était toi, c'était personne. C'est un film noir, oui, je pensais. J'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des milliards de questions, une de plus à chaque seconde. C'est un film noir, oui, j'en suis sûr. J'espère au moins. C'est un film noir, oui, je pense. J'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des milliards de questions, une de plus à chaque seconde. C'est un film noir, oui, j'en suis sûr. J'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des milliards de questions, une de plus à chaque seconde.
Vous êtes dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9, votre radio communautaire francophone préférée. la présence francophone ici dans la grande région de Victoria. On continue cette édition du débrief, la dernière de cette série rétrospective 2017, et je retrouve avec joie ma fidèle collaboratrice, Marie-Hélène Bourret.
Bonjour Alexis.
Bonjour Marie-Hélène. Alors, il y a ces sujets zombies.
Ouais. qui
n'en finissent plus de mourir. On croit qu'ils sont disparus, ils reviennent.
Ouais. Ils viennent nous hanter, vraiment.
Ils reviennent nous hanter. C'était le cas du site C.
Oui.
On en a parlé cette semaine. Et c'est également le cas du projet d'expansion, de triplement de capacité du pipeline Trans Mountain, l'oléoduc Trans Mountain, qui parcourt la distance entre Edmonton en Alberta et le port de Burnaby en région vancouveroise.
Mieux connu sous le nom de Kinder Morgan.
Kinder Morgan Trans Mountain, exactement. Ouais. Alors, il est revenu dans l'actualité, ce zombie, car on a appris il y a une dizaine de jours, c'était curieusement à peu près en même temps que l'annonce concernant le site C.
Oui.
Et donc, tous ceux qui s'intéressent à l'environnement ont eu comme une surcharge
d'adrénaline,
d'informations, ouais. d'indignation peut-être. Bref, c'était il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours, Burnaby qui a essuyé un échec, si vous voulez, l'Office national de l'énergie a reconnu à Kinder Morgan, la pétrolière américaine qui veut tripler son ouais. pipeline, le droit de ne pas tenir compte des règlements municipaux de Burnaby, qui est le point d'arrivée de l'oléoduc Trans Mountain.
On sait que Burnaby, alors c'est pas seulement la ville même avec le maire et les conseillers, ce sont aussi les habitants, ce sont les services de pompiers, les services d'urgence qui sont contre ce fait-là, que
écoute,
ça arrive
Marie-Hélène,
chez
eux. Marie-Hélène, toutes les villes de Colombie-Britannique oui. sont contre ce oui. projet-là, à l'exception de quelques-unes dans l'est de la province. Plus on s'approche de l'Alberta,
oui.
et on en retrouve quelques-uns. Le oui. maire de Vancouver, Gregor Robertson, oui. est opposé farouchement à ce projet.
Mm-hmm.
Notre mairesse ici oui. à Victoria, Lisa Helps, est opposée farouchement à ce projet.
Oui.
Et Burnaby, c'est la municipalité la plus mobilisée, la plus...
Le plus en danger aussi.
La plus hostile,
oui.
justement parce qu'elle est la plus en danger. Donc,
oui.
il y a eu des manifestations. Il y a eu un petit peu de désobéissance civile et ça se poursuit. Il y en avait eu en 2014 lorsque on parlait de faire passer le pipeline sous le Burnaby Mountain.
Ouais.
La GRC avait procédé à des arrestations de citoyens pacifiques. Bref, le feuilleton se poursuit et là, notre Office national de l'énergie, le NEB, comme on l'appelle en anglais, qui donne la permission à Kinder Morgan de passer outre la réglementation de voter démocratiquement.
Mais en fait, en plus, ce que ça fait, c'est que ça ouvre la porte à Kinder Morgan pour passer outre les conditions qui avaient été mises de l'avant par les gouvernements fédéral et provincial pour pouvoir. Donc, quand on commence à déroger de la loi, parce que c'est une loi, je veux dire, il y a un vote, non, tu passes pas ici. Là,
il y a un effet domino.
Mais il y a un effet domino qui est très dangereux et ça arrive au moment où le Canada doit négocier avec les États-Unis pour le libre-échange. On sait que Kinder Morgan est une compagnie américaine. Est-ce que ça joue dans la balance?
Peut-être. On sait que ce triplement de capacité de livraison de pipeline sur Burnaby est un souhait du gouvernement chinois qui a posé cette condition en vue de la négociation de nouveaux traités de libre-échange Canada-Chine.
Ouais.
Et donc, le gouvernement de Justin Trudeau s'applique à rencontrer cette condition posée par les Chinois.
Ouais.
Et donc, ils font à progresser ce projet contre vent et marée.
Ouais.
On sait que la population est opposée généralement à ce projet
Mais il n'y a pas seulement, la population en général, le monsieur, madame, tout le monde dans la rue. Il y a aussi tous ces scientifiques qui ont déposé des rapports encore et encore. Et moi, ça me surprend, puis ça me surprend pas, en fait. Le gouvernement NPD provincial, donc, ici en Colombie-Britannique.
Nouvellement élu.
Nouvellement élu. Le gouvernement libéral de Justin Trudeau au fédéral ont été élus sous des conditions de protection de l'environnement pour faire un peu contrebalancier aux administrations précédentes, libérales donc au provincial et conservateurs au fédéral, qui plus ou moins ne croyait pas à la science. Le disait souvent ouvertement même que c'était des manigances, on voulait, c'était des communistes, c'était peu importe c'était qui là qui causait le problème. Mais là, ces gens-là,
les tree huggers,
les tree huggers, les snowflakes. Alors, ces gens-là qui, ces politiciens donc qui auparavant nous disaient élisez-nous, on va faire une bonne job, on va mettre dehors ces gens qui ne croient pas à la science, qui ne respectent pas l'environnement, les gens les élisent, pas moi, mais les gens les élisent et on se retrouve face au même problème.
Oui. Alors on sait que Trudeau, élu en novembre 2015, oui, a brisé ses promesses, oui, dans le dossier Kinder Morgan, ça c'est un fait,
oui,
incontestable.
Oui.
Maintenant, est-ce que le gouvernement de John Horgan, appuyé de façon cruciale par les trois députés du Parti vert et son chef Andrew Weaver, est-ce que ce gouvernement de John Horgan va lui aussi rompre les promesses, briser les promesses qui ont été faites durant la campagne? On voit que la promesse sur le site C a été brisée.
Ouais.
Maintenant, est-ce que ce sera le cas également dans le cas du Kinder
Morgan?
Il n'y
a rien à perdre parce que, dans le fond, si les Verts disent « claque la porte » et disent « nous autres, il n'y a plus d'alliance », il y a les libéraux qui continuent à vouloir Kinder Morgan, qui vont l'appuyer. Donc, en chambre, s'il y a des choses à se décider, il est du bon côté, Horgan, à ce moment-là.
Donc, l'effet levier du Parti vert est très important. Kingmaker,
ben oui,
autrement dit,
ouais,
c'est eux qui déterminent la balance du pouvoir.
Ouais.
C'est ce qu'on va voir.
Ouais.
J'aimerais qu'on remonte aux sources.
Oui.
Et je pense que la comparaison, l'analogie avec une source est vraiment pas,
ouais,
bonne parce que c'est une source de pétrole sale.
Ouais.
En plus que c'est du heavy oil, comme on l'appelle,
du bitumen
qui coule au fond de l'eau et qu'on ne peut plus récupérer.
Et qui est mélangé à un produit qui, pour justement le rendre plus fluide.
Oui.
Et ce produit-là, il va être amassable sur le dessus de l'océan, mais le reste va dans le fond, puis il crée des espèces de blobs.
Oui, c'est ce que nous avait très bien expliqué
François Brassard,
invité de l'émission à quelques reprises, représentant de Dogwood Initiative dans Esquimalt.
Juste rapidement, au point de vue politique, Dogwood, je reçois régulièrement leur lettre de nouvelles, disait que pour nous, c'est pas perdu pour les citoyens, là. Parce qu'il y a toujours ici, en Colombie-Britannique, la possibilité de faire une initiative citoyenne. C'est-à-dire, s'il y a tant de pourcents de tous les électeurs qui veulent un référendum sur une question particulière, c'est la loi en Colombie-Britannique. Le gouvernement est obligé d'aller en référendum, en question référendaire, et est obligé d'obéir à ce que le peuple a décidé. Donc, même si le fédéral...
Ça déclenche.
Oui, même si le fédéral pousse, même si Horgan vire son capot de bord, il y a encore une possibilité pour les citoyens de la Colombie-Britannique de se faire entendre et de virer complètement. Et le fédéral ne peut rien faire. C'est le peuple qui parle.
Bon, alors, c'est ça. On remontera aux sources,
ouais,
du pipeline un petit peu plus tard.
Ouais.
Je vais juste poursuivre dans cette veine-là parce,
ouais,
que c'est intéressant. La Constitution permet à Ottawa de passer outre,
oui,
les gouvernements,
fait,
qui,
ouais,
sont sous le palier fédéral.
Ouais.
Hein? Donc c'est possible de le faire. Maintenant, est-ce que l'acceptabilité sociale
est
au rendez-vous, est à zéro à peu près,
ouais,
lorsque le gouvernement va à l'encontre d'une majorité dans l'opinion publique,
mm-hmm,
qui est claire et exprimée de façon répétée? Ça va être une lutte là, politique, sur le terrain politique.
Ouais.
Et dans la même constitution canadienne, il y a aussi ces dispositions concernant les Premières Nations.
Ouais.
Ça, ces dispositions-là sont très importantes aussi.
Ouais.
Et il va y avoir un,
ouais,
choc,
ouais,
entre,
là,
les différentes positions.
Ouais.
Et plusieurs observateurs s'entendent pour dire que c'est vraiment du côté des Premières Nations que va se jouer le dernier chapitre
ouais,
de ce feuilleton.
Ouais.
Ça reste à voir.
Et il y a aussi, au point de vue tout simplement moral, quelque chose d'inconcevable quant à moi. par rapport aux Premières Nations. Puisque le gouvernement fédéral donne des milliards de dollars à Kinder Morgan Trans Mountain en diminution d'impôts, en argent comptant.
Crédit d'impôt,
mais aussi en argent, subvention et tout ça. Est-ce que cet argent-là ne serait pas mieux utilisé pour aller améliorer les conditions des Premières Nations qui sont pour la plupart en territoire où va passer ce fameux pipeline, encore là, mettant en danger leurs sources d'eau potable, leur manière de vivre, aussi leur gagne-pain, puisque les saumons, déjà, l'année prochaine, c'est pas sûr, on va avoir des saumons, là.
Ben écoute, je pense que la réponse est dans la question, Marie-Hélène, et puis ça soulève aussi tout le versant économique du dossier. On a évoqué les points écologiques. On va continuer de le faire dans quelques minutes. Mais sur le plan économique, ça ne tient pas debout.
Non.
On a parlé de 15 000 emplois. C'est une vue de l'esprit.
Oui, ben on en a parlé dans certains débriefs précédents.
Voilà, on avait souligné le caractère farfelu de ce chiffre de 15 000 emplois. Donc, on n'y reviendra pas. Mais sur le plan économique, là, on n'a pas de gains importants à réaliser. Ce sont des emplois temporaires, peu qualifiés, une fois que le pipeline est construit. Par contre, il y a un nouvel élément qu'on pourrait soulever rapidement.
Il y a une perte d'emploi possible.
C'est ça. Non seulement ça n'apporte pas d'emploi, mais il y a possiblement un inconvénient dans la région de Burnaby.
Oui.
La construction du pipeline Trans Mountain, c'est-à-dire l'expansion, impacterait négativement les emplois d'autres raffineries voisines.
Ouais.
Et c'est ce qu'a soulevé la députée verte, Elisabeth May.
May, qui a été répondue par un député NDP, qui semblait agréé avec elle. Là. Donc, il y aurait, parce que lui est de cette région-là, donc il y aurait une perte d'emploi de ce côté-là qui serait immédiate. En fait, là, dès que ça s'est mis en œuvre, on en perd. Mais on passe pas non plus à tous les emplois s'il y avait un déversement qui serait perdu.
Ben là, écoute, c'est l'industrie du tourisme qui crache,
tourisme,
qui s'écrase complètement
pêche,
pour des années.
La pêche. On a vu ce qui s'est passé avec le déversement à Bella Bella l'année passée. Le fond a été totalement brûlé. Là, il y a plus rien. Là, ils viennent d'en avoir un autre la semaine passée.
Et
là,
ça, c'était des petits déversements mineurs.
Des petits déversements.
Je pense que c'était un remorqueur qui avait fait naufrage sur un récif.
Ces gens, ça s'attaque à un sens. Là, c'est stupide. Là.
Oui.
Mais ça cause des dommages. Donc, il y a déjà l'année prochaine moins de saumon parce qu'on sait que Kinder Morgan a mis des filets dans le fond des rivières à saumon pour empêcher qu'ils pondent leurs œufs. Donc l'année prochaine,
parce qu'ils préparent le terrain là, pour le passage du gros pipeline.
C'est ça.
Donc ils veulent faire le ménage sur le trajet, l'itinéraire de leur expansion.
Donc, mais ça, la pêche là, ça représente donc le gagne-pain de plusieurs Premières Nations. Aussi leur nourriture, ils s'en nourrissent, mais il y a aussi toute l'industrie de tourisme qui vient justement pour cette nature-là. Et les berges de ces rivières-là, si ça arrive sur une berge, ben évidemment, toute la forêt meurt à moyen terme. Donc, tout ça, c'est pas pris en considération quand on parle des retombées économiques favorables.
Alors, oui, c'est ça. Donc, on a bien expliqué dans d'autres éditions du débrief à quel point l'argumentaire économique du projet était frauduleux, boiteux, spécieux, bref, ne tenait pas debout. Alors, tu as parlé de toutes sortes d'inconvénients environnementaux.
Ouais.
Si on remonte à la source du pipeline, allons à l'extraction de la matière, donc cette ressource naturelle dont on fait l'extraction nuit et jour en Alberta, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Déjà, dès l'extraction, il y a d'immenses problèmes.
Oui.
Les émissions résultant de l'extraction sont équivalentes à celles d'une ville de la taille de Mexico City.
Oui, alors le smog qui est créé, parce qu'il y a des particules toujours qui vont dans l'air. Il y a des particules toujours qui vont en l'air et ça correspond donc à ce qui se passe à Paris ou à Mexico dans les plus grosses journées d'été.
Oui.
Là. Et ça cause des problèmes au point de vue des poumons, mais au point de vue cardiovasculaire aussi. Et parce que c'est dans les plaines de l'Ouest que ça se passe, ça se propage, hein, il y a des grands vents. Les animaux qui mangent l'herbe sont aussi atteints de maladies.
Énorme.
Et les humains vont manger cette viande-là.
Énorme. Donc, en amont, il y a d'énormes problèmes. Et en aval, on n'en parle même pas. Potentiellement des accidents sur l'itinéraire du pipeline.
Oui.
Des pipelines qui se rompent, qui se fissurent, qui éclatent, ça arrive tous les jours en Amérique du Nord. Vous n'avez qu'à faire la petite recherche sur votre moteur de recherche préféré. Vous allez voir que les incidents sont très nombreux. On n'en parle pas assez. Et
ça passe dans des endroits qui sont difficiles d'accès. On l'a vu l'été dernier avec les feux qu'il y a eu en Colombie-Britannique.
Oui.
Il y en a qui brûlent encore. Ces feux-là...
Ou qui brûlaient encore très récemment.
Maintenant, ça brûle encore. Il y en a quelques-uns qui sont sous-jacents là, dans la tourbe. Donc, si on n'est pas capable de les accéder parce qu'il y a un feu, est-ce qu'on va être capable de les accéder s'il y a une pipeline qui pète?
C'est une excellente question. Et au point d'arrivée à Burnaby, il y a aussi d'énormes questions. On sait que le trafic des pétroliers, les tankers, augmente de 700%. Ça veut dire 400 pétroliers qui circulent à Vancouver, à Burnaby, dans le détroit Juan de Fuca, ici juste devant...
Qui est très riche en biodiversité.
Voilà.
Jusqu'à
date. Il reste à peu près 50 membres de cette espèce des orques dans notre
et qui vont peut-être mourir parce qu'il y aura plus de saumon qui va être né dans la dernière année.
Exact. Donc on peut aussi parler des recommandations du GIEC, le groupe d'experts intergouvernementaux du climat de l'ONU, qui appelle à ne plus construire d'infrastructures. Selon les climatologues, il faut laisser 80% des réserves de pétrole dans la terre, dans le sous-sol, ne pas toucher à ces réserves-là. Ouais. Faute de quoi, on va subir des hausses de température énormes.
Mais on dit déjà qu'il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, croyez-le ou non, qui déjà vont dans les...
Se désinvestissent
et dans les quelques prochaines années, il n'y aura plus d'auto qui fonctionne au pétrole. Les autres, ils ont le soleil, évidemment, qui leur permet de développer ces énergies propres-là.
La Norvège.
La Norvège, qui pourtant n'a presque pas de soleil.
Et qui a beaucoup de pétrole.
Et qui
a fait le choix
aussi,
de désinvestir.
Alors, nous, ici, qui avons le vent, qui avons la marée, on n'a aucune raison.
Et cet autre pays, totalement inattendu, une grande surprise en septembre dernier, la Chine, qui a annoncé que les moteurs à essence allaient être retirés à terme. Donc, c'est à moyen terme. Là, on parle de quelques années.
L'Inde aussi.
L'Inde, tous les pays vont suivre.
Ouais.
Le mouvement est engagé. Le pétrole est en récession, est en régression.
Ouais.
En plus, avec le prix volatile de cette matière de première-là, le bitumineux sera le premier à souffrir parce qu'il coûte
très cher.
Très cher à extraire.
Et c'est pour ça que Kinder Morgan a besoin des subventions du gouvernement. Parce qu'en bout de ligne, là, une fois que tout ça s'est fait, là, qu'ils ont détruit l'environnement et tout ça, ils ne seront pas capables de le vendre parce que c'est un produit de dernière qualité. Et les pays qui sont déjà maintenant en train d'essayer de diminuer leur empreinte carbone voudront pas de cette saleté-là pour venir polluer. Ils vont acheter du bon pétrole.
Mais ça, c'est... En guillemets, oui. Bon, oui, c'est ça. Puis qui coûte moins cher à produire.
Qui coûte moins cher à produire.
Alors, le pétrole bitumineux de l'Alberta qui occupe une superficie inconcevable de cette province. Un champ de ruines, bien souvent, parce que ce sont des bassins d'eau usés.
Et qui sont sur des routes migratoires.
Inutilisables.
Des routes migratoires d'oiseaux.
Incultes.
Oui, et ces oiseaux-là vont là, remplissent de pétrole, meurent.
Alors, plutôt que de jeter la pierre à l'Alberta, il faut trouver ensemble des solutions.
Oui, il faut jeter la pierre à l'Alberta.
Ben, c'est-à-dire qu'il faut...
Il faut
s'opposer à leur politique.
Mais il faut jeter la pierre dans le sens où il faut leur dire, écoutez, vous avez d'autres moyens de développer votre industrie, votre économie.
Oui.
Ouvrez-vous l'esprit. Arrivez dans notre siècle. Là. Restez pas en arrière avec votre vieille pensée du début de l'industrialisation.
Mais on parle d'une dépendance. Hein, parce que c'est une dépendance économique qui a été créée sur plusieurs années et qui a apporté une espèce de prospérité illusoire.
Oui, fallacieuse.
Malheureusement, il va falloir déconstruire tout ce modèle-là et favoriser des options qui sont durables.
Moi, je pense que, et c'est une opinion très personnelle, je pense que l'addiction, la dépendance est plutôt à la grosse enveloppe d'argent que ces compagnies-là donnent aux partis politiques.
Oui, il y a ce phénomène-là aussi qui se produit.
Tu sais, je veux dire, on sait que le gouvernement antérieur, ici en Colombie-Britannique, a reçu des enveloppes incroyables de la Banque de Chine même. What the hell?
Dans le dossier du gaz naturel liquéfié, pense que ça a été très bien démontré. Et sûrement dans le dossier du pétrole, le temps imparti, malheureusement, s'écoule.
Alors, si moi je peux me permettre juste une petite chose, Alexis. Si vous voulez en savoir plus, allez vous renseigner sur des sites comme de Taï, par exemple, D-Smog. Allez voir, inscrivez-vous à la lettre de nouvelles de Dogwood Initiative.
Pareil.
Vous allez avoir des faits qui sont évidemment vus sous le télescope fondé, mais vous sur le télescope aussi dans votre environnementaliste. Signez les pétitions. Ça vous coûte rien. Ça vous engage à rien. Signez les pétitions. Si jamais il y a un vote pour une initiative citoyenne, sortez de chez vous, allez voter. C'est d'une importance capitale non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui viendront après nous sur la planète.
Merci beaucoup, Marie-Hélène.
Et bonne année et joyeux Noël à tous encore une fois.
J'ai l'impression qu'on va se retrouver au micro de CILS en 2018. La formule reste à déterminer.
Ouais. On va savoir une petite émission à nous.
Je te souhaite sur ce d'excellentes fêtes de fin d'année, joyeuses fêtes de fin d'année, bonne année à tous nos auditeurs. C'était la dernière de la série de ces débriefs en mode revue de l'année.
Pour le moment, on sait jamais.
Il y aura peut-être de nouvelles incarnations, entre guillemets, de nouvelles émissions qui restent à formuler et à placer dans la grille.
Ouais.
Mais pour le moment, cette petite série regard en arrière, regard dans le rétroviseur est terminée. Joyeuses fêtes à tous nos éditeurs et au plaisir de se parler en 2018.
À la prochaine.